Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois Stefano Zacchiroli, professeur au département informatique et réseau de Télécom Paris, pour le premier épisode d'une série sur les communs numériques. Nous allons consacrer deux épisodes, d'abord avec toi Stefano, puis avec ta collègue Laure Muselli, au logiciel libre. Mais pour commencer, je te propose de prendre un peu de recul sur cette notion de commun, dont on voit qu'elle chevauche de nombreux domaines. Qu'est-ce qu'elle recouvre? Comment est-elle née? Et que sont précisément les communs numériques?
Donc, commençons par la notion des communs, avant d'arriver à la partie numérique. Non, des communs, ou commons en anglais, sont les ressources qui sont maintenues collectivement par une communauté. Des exemples classiques sont des ressources naturelles, comme l'air, la terre ou l'eau d'une rivière, ou encore des ressources culturelles, comme les connaissances qu'une communauté ou toute l'humanité peut avoir assemblées au fil des années. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de privation. Donc en fait, ces ressources-là ne sont pas gérées par des individus ou pour des entreprises, mais vraiment par une collectivité. Donc quand on passe au commun numérique, on parle des ressources numériques qui sont gérées de la même manière. Donc, notamment, sont des données ou des logiciels, par exemple, qui peuvent être gérés par une communauté, qui sont librement accessibles à des coûts soit zéro, soit complètement marginaux, donc que toute l'humanité peut utiliser, et dont la gouvernance, donc les contrôles de ces données, est garantie par une communauté qui, en gros, s'est mis d'accord sur comment gérer ces ressources numériques. Ça, c'est ce qu'on appelle des communs numériques.
Alors, est-ce que tu peux nous préciser quels sont ces différents communs numériques?
Alors, il y a plusieurs exemples. Donc, les premiers exemples historiques, c'est les logiciels libres. Donc, c'est tous les logiciels que les individus peuvent librement copier, modifier et étudier. Et ça date des années 80 comme notion. Et ça a donné lieu à beaucoup de logiciels qui existent et qui sont utilisés aujourd'hui pour supporter l'Internet ou pour faire tourner nos téléphones et qui sont libres dans ce sens-là. Donc, n'importe qui peut les obtenir gratuitement ou presque gratuitement, modifier, étudier et partager avec les autres. Donc, ça, c'est un peu les premiers communs numériques qui ont vraiment étudié et qui a donné lieu à d'autres exemples, par exemple Wikipédia, l'encyclopédie libre, qui a été inspirée par les logiciels libres. Donc en gros, les fondateurs de Wikipédia ont vu que les logiciels libres permettaient une collaboration à très grande échelle pour une communauté mondiale pour créer quelque chose d'important et a pensé d'utiliser les mêmes modèles pour écrire une encyclopédie libre. Donc aujourd'hui, toute la connaissance qui est stockée dans Wikipédia, c'est un commun numérique. D'autres exemples plus récents sont les données cartographiques ouvertes. Notamment, il y a le projet OpenStreetMap qui a construit une base des données qui contient un peu la carte de tout le monde. Et ces données-là sont en partie contribuées par des institutions qui décident d'ouvrir leurs données. Ça peut être l'État, ça peut être des instituts cartographiques ou des bénévoles qui, dans les mondes, visitent un endroit avec un GPS et ils utilisent ces données GPS pour augmenter la quantité de données présentes sur cette carte globale qui est accessible à tout le monde. Ou encore, plus récemment, il y a de plus en plus des monnaies, des modèles d'intelligence artificielle ouverts, dans lesquels à la fois les données utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle et les résultats de l'entraînement, donc ce qu'on appelle les modèles, sont tous complètement ouverts et font partie d'un commun numérique.
Oui, mais tous les acteurs de l'IA ne sont pas dans des modèles ouverts et les principaux cultivent même une forme d'opacité, notamment sur l'origine de leurs données d'entraînement. La question est d'actualité à l'heure des intelligences artificielles génératives, je pense à OpenIA par exemple.
Non, c'est un très bon exemple. OpenAI est décidément un oxymore comme nom, car à la base, c'est une entreprise privée qui, à l'origine, avait vocation justement à créer des modèles d'intelligence artificielle complètement ouverts, mais au final a décidé qu'il vaut mieux de ne pas le faire, en partie pour des raisons éthiques, mais surtout pour des raisons commerciales. Et donc en fait, non, les modèles et les données utilisées par OpenAI, la boîte, ne sont pas deux exemples d'intelligence artificielle ouverte. Par contre, il y en a d'autres exemples. Par exemple, il y a les projets Common Voice qui visent à construire un modèle de reconnaissance de langage parlé par les êtres humains et les faire avec des données complètement ouvertes. Ou alors les projets Big Code qui visent à créer un générateur de code automatique complètement entraîné sur du code ouvert et dont le modèle lui-même est ouvert. Donc tout le monde peut l'utiliser, les modifier et l'améliorer.
Tu t'intéresses depuis longtemps à l'ouverture des software commons, mais aussi à leur préservation, et tu as contribué au projet Software Heritage avec INRIA et l'UNESCO pour les préserver, justement. Pourquoi les logiciels sont-ils un patrimoine essentiel pour l'humanité qu'il faut protéger ?
Alors, faut partir dans l'observation que les logiciels existent dans deux formes, typiquement. Il y a la version exécutable du logiciel, c'est comment le logiciel tourne sur nos téléphones ou nos ordinateurs. Et après, il y a la version du logiciel qui est utilisée par qui crée les logiciels, qui s'appelle les codes sources. Donc, en gros, la recette de ce qu'un logiciel fait, comme elle est vue par un développeur, ça s'appelle les codes sources. Et dans les codes sources d'un logiciel, il y a vraiment la connaissance qui est intrinsèque à ces produits logiciels. Donc, comment un logiciel marche, comment lire un format des données qui est propre à ces logiciels est stocké seulement dans les codes sources. Donc, l'observation de départ du projet de Software Heritage est que les logiciels contiennent plein de connaissances techniques que l'humanité a accumulées au fil des années et qui se serait dommage de perdre. Donc, c'est de la connaissance. Donc, ça rentre dans la définition des biens communs, et notamment des biens communs numériques dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc, l'idée du projet Software Heritage est de récupérer la plupart des codes sources qu'on arrive à trouver sur Internet ou dans d'autres endroits, les préserver dans les très longs termes, idéalement pour toujours, et les rendre accessibles à tous les acteurs qui en ont besoin. Donc, nous avons fait ça pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, l'observation, c'était qu'en 2016, il y avait des plateformes utilisées par les développeurs pour créer collaborativement des logiciels qui commençaient à disparaître. Donc, on appelle ça des forges de développement. Et pour des raisons différentes et variées, certaines forges étaient en train de disparaître. Donc, on s'est dit, si du code source est disponible seulement sur ces forges-là, on risque de les perdre. Donc, on risque que les générations futures n'auront plus accès à ces ressources. Donc, on s'est dit, on doit mettre en place un projet qui permet de les archiver. Donc, nous avons lancé ces projets-là qui servent plusieurs besoins. Non, un besoin, c'est justement la préservation des connaissances techniques importantes pour l'humanité. Un deuxième besoin, c'est pour la science ouverte. Donc, de plus en plus, nous avons des articles, des résultats scientifiques qui dépendent du logiciel. Donc, il est important d'archiver les logiciels qui ont été utilisés pour produire ces résultats scientifiques, pour permettre de les vérifier, de les reproduire dans le futur et de construire d'autres résultats sur ces bases dans le futur. Et troisièmement, on a de plus en plus de logiciels libres qui se trouvent dans nos dispositifs, dans des dispositifs numériques qui se trouvent dans les commerces. Donc, il est important de pouvoir dire exactement quelle version d'un logiciel libre est contenue dans une appli qui se trouve sur ton téléphone ou sur une montre numérique. Et donc, un archive de ce type-là permet de référencer les versions exactes du code source qui se trouve dans nos dispositifs que nous utilisons dans les quotidiens.
Ah, tout ça, c'est un projet titanesque. Mais est-ce qu'il se déroule à l'échelle mondiale et comment vous vous organisez pour archiver tous ces codes sources?
Alors, c'est un projet très ambitieux. C'est vrai. Donc, nous l'avons lancé en collaboration avec l'UNESCO et l'INRIA en 2016. L'UNESCO avait connu qu'en fait, il n'y avait pas d'autres projets qui visaient à archiver les formats code source du logiciel à cette échelle-là. Donc, il nous a donné son soutien. Et depuis, beaucoup de sponsors s'y sont ajoutés. Donc, c'est un projet qui s'est porté bien. Il est supporté par des acteurs publics comme privés. Il est supporté aussi par Télécom Paris grâce à mon travail. Et aujourd'hui, le projet s'est porté plutôt bien. Nous sommes une quinzaine de personnes par une équipe que je gère en tant que responsable technique du projet et qui a déjà constitué aujourd'hui la plus grande archive au monde des codes sources. Donc, on parle de plus de 15 milliards de fichiers sources archivés, plus de 3 milliards de ce qu'on appelle techniquement des commits, donc des versions différentes d'un logiciel, et plus de 200 millions de projets de développement logiciel que nous avons archivés. Donc, on se porte plutôt bien et niveau politique, nous menons une bataille pour faire un sorte que la science ouverte utilise de plus en plus des pratiques, des bonnes pratiques d'archivage des codes sources associés aux articles scientifiques et notamment les projets cités dans la roadmap de la science ouverte de la France et aussi fait partie de la proposition de la France pour les Digital Compact des Nations Unies.
Une question me venait sur le bilan carbone de l'archivage numérique. Est-ce que tout cela est compatible avec la trajectoire climat et la lutte contre le réchauffement climatique?
Non, c'est intéressant, mais niveau quantité des données, alors ça peut sembler gros, dans l'archive fait plus ou moins un pétaoctet des données, mais les codes sources ont une particularité. Donc, ça demande beaucoup de temps de cerveau à produire, mais ça se réduit à très peu d'octets une fois qu'on les a produits. C'est normal pour un développeur de passer une journée à essayer de résoudre un problème qui, à la fin, devient une ligne de code changée, donc juste quelques octets. Alors que si on fait des vidéos de chatons et on essaye de les archiver, dans quelques secondes, on a fait des dizaines de mégas de vidéos.
Pour aborder peut-être une dimension plus historique, toi Stéphano, j'ai compris que tu faisais des recherches sur l'évolution de la production de logiciels libres, avec des données géographiques, de genre. Récemment d'ailleurs, tu as publié une étude sur la part des femmes dans la production de logiciels libres. Est-ce que cet archivage va selon toi servir aux chercheurs pour mener des travaux d'historiographie?
Oui, absolument. Donc, c'est un projet comme ça, c'est un mine d'or pour la recherche, notamment un génie logiciel empirique. Donc, les chercheurs qui étudient les codes sources et notamment via ces manifestations, un fichier ou autre chose. Donc, moi, en partie de ma recherche, effectivement, c'est des analyses historiques sur l'archive des Software Heritage. Donc, on a archivé désormais, on a plus de 50 années d'historique. Car, en gros, on a commencé à archiver en 2016, mais on a archivé on appelle ça des version control systems, donc des systèmes de contrôle de version qui contenait déjà une historique qui peut remonter arrière dans les temps. Donc là, on peut observer l'évolution du code public entre les années 70 et 2020 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc en fait, effectivement, j'ai mené moi-même des recherches sur la diversité dans les codes publics, notamment en termes de diversité des genres ou de diversité d'origine géographique. Et tout ça est rendu possible par une archive historique accessible à tout le monde.
Et y a-t-il d'autres exemples de communs qui pourraient bénéficier de cet archivage historique ? Ou avec le logiciel libre, c'est un peu une première.
Alors, comment, au-delà du monde numérique, tout ce qui est livre, donc littérature, texte, les bibliothèques font de l'archivage depuis très longtemps. Et il y a effectivement là aussi de plus en plus des études historiques au fil du temps qui utilisent des techniques numériques. Mais sinon, dans les mondes numériques purs, avec cette vision historique, je pense que c'était une première.
Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce premier épisode sur l'origine des communs numériques et le patrimoine qu'ils représentent et qu'il faut préserver vous aura intéressé. Rendez-vous dans de prochains épisodes pour approfondir avec les chercheurs de Télécom Paris les questions de souveraineté autour des communs, mais aussi parler de l'open data dans l'intelligence artificielle et des initiatives pour construire des modèles d'IA sur la base de données mises en commun.